Hello, bienvenue à tous, je suis Laetitia Fall et vous écoutez Vendu, le podcast pour booster ses ventes. Je vous retrouve pour un nouveau Sales Talks. Je rappelle le principe, je discute avec une personnalité de la vente de mon réseau pour t'aider à dépasser tes objectifs et rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. Il y a quelques semaines, j'ai échangé avec Marwan Ouada, entrepreneur, growth et créateur de contenu que j'ai rencontré il y a un an sur LinkedIn. C'est l'une des meilleures rencontres pro que j'ai faites ces deux dernières années. Marwan, il fait jamais ce qu'on lui dit de faire et ça lui réussit plutôt bien. Il a commencé sa carrière en tant que sales, il a intégré de belles startups, notamment comme Lemlist. Il a toujours eu une intuition, c'est que créer du contenu régulièrement lui permettrait de vendre plus facilement et d'exposer ses objectifs. Il avait raison, il publie tous les jours sur les réseaux sociaux, LinkedIn et TikTok, ce qui lui a permis de closer des dizaines et des dizaines de deals par mois. Je lui ai demandé de partager son expérience, on va être ensemble pendant 45 minutes, on va parler de pourquoi tous les commerciaux devraient créer du contenu et l'intégrer dans leur stratégie de prospection au même titre que le cold email et le cold call, comment créer du contenu pertinent qui transforme, et enfin, comment s'organiser pour que le contenu devienne un levier d'acquisition solide. C'est ta dose de culture sales, bonne écoute. Hello Marwan, ça va?
Hello Laetitia, ça va super et toi?
Ouais, nickel. Et je suis trop contente de t'avoir.
Moi, ça me fait plaisir de participer. Hein.
Trop cool. Bon, on se connaît maintenant depuis, je crois, un an. On s'est connus sur LinkedIn parce que t'es un tueur, t'es un gros créateur de contenu sur LinkedIn. Et du coup, tu m'as énormément aidé dans mes débuts, notamment de ce podcast, quand j'ai commencé à publier sur le contenu, à publier du contenu sur LinkedIn. Et du coup, c'était obligé que je t'aie parce que, en fait, dans les différents podcasts que j'ai pu faire jusqu'à l'heure, tout le monde dit qu'aujourd'hui, un sales, ça va devoir devenir un créateur de contenu. Du coup, j'ai envie qu'on parle de ça. Comment les sales vont pouvoir créer du contenu, comment ils doivent faire, comment ils doivent s'organiser. En gros, que tu nous partages ton expérience. Mais avant ça, du coup, je te laisse te présenter. Du coup.
Me présenter, je vais faire ça rapidement parce que je n'ai pas grand-chose à dire non plus. Mais donc moi, c'est Marwan, j'ai 25 ans. Ça fait à peu près 2-3 ans que je suis dans l'écosystème startup. J'ai commencé pendant que j'étais étudiant avec un premier projet, je ne vais pas appeler ça une startup, où j'ai fake plein de trucs, je me suis fait la main sur l'automatisation, la création de landing page et autres. Ça m'a permis de rejoindre une belle startup qui s'appelle Lemlist, où j'ai fait un an entier avec eux en tant que sales. Et je pense que du coup, cette expérience, ça va être cool, je vais pouvoir la partager, mais j'ai fait un an en tant que sales là-bas, où en fait, j'ai fait presque plus de contenu que de sales. On est passé de 3 millions d'ARR quand je suis arrivé à 11 quand je suis parti. Wow. On était 40. Et pour, okay. le spoil, la team sales, c'était la plus petite team de l'équipe de Lemlist. On devait être genre, on a fluctué entre 6 et 4 personnes avec la head of, tu vois. Donc voilà, ensuite je les ai quittés. J'ai rejoint une boîte hyper early qui s'appelle Refty. Que j'ai quitté d'ailleurs aussi là un an après pour me lancer finally, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Okay. Mais là-bas, pareil, j'étais growth et je les ai aidés à créer beaucoup de content, à mettre en place la petite content machine, à chercher le PMF, j'ai fait du sales avec eux, plein de petits hacks entre justement la partie sales et content. Et maintenant, aujourd'hui, je monte une boîte, un SaaS qui s'appelle Track et qui justement, et un SaaS qui te permet de créer ta content machine, de centraliser tout ton contenu et d'être ultra productif en termes de content et de générer beaucoup de ROI, mais ça on pourra en reparler un petit peu après.
Ouais, carrément, trop bien. Et écoute, tu dis petite expérience, ça va quoi, grosse expérience justement. Oh. Justement, en fait, moi ce qui va m'intéresser, c'est ce que tu as dit au départ, par exemple, en disant globalement chez Lemlist, mais en fait je sais que tu as fait à peu près la même chose chez Refty, c'est que vous étiez une petite équipe au final. Et en réalité, vous aviez vous avez fait un raz-de-marée, en tout cas sur les réseaux. Vous avez réussi à acquérir plein de clients. Et donc, effectivement, je sais qu'on a eu ces discussions-là. On n'a parfois pas été forcément d'accord, mais sur le fait que, ouais, en gros, il n'y a pas forcément besoin de grosses teams de sales pour pouvoir réussir à faire un chiffre. Du coup, justement, comment ça s'est passé chez Lemlist, quand tu as plutôt créé du contenu? Qu'est-ce qui a fait que tu as d'abord créé du contenu plutôt que prendre ton téléphone, écrire des mails ou faire des DM sur LinkedIn, quoi.
Mais en gros, mais juste pour revenir à ce que tu dis, moi je suis un peu genre, c'est là où on n'est pas d'accord, moi je suis grave un peu extrémiste, quoi. Je me dis, bon contenu, bonne brand, bon produit, tu peux squeezer les sales, tu vois, ça devient plus des sales. Enfin, c'est pas vraiment des sales, tu vois, c'est juste, je sais pas comment il faudrait leur trouver un nom, mais c'est presque des CSM ou des accounts, tu vois, qui sont là pour, je sais pas, t'aider, te demander, faire en sorte que tu kiffes bien l'outil, mais il n'y a plus besoin de vendre, entre guillemets. Okay. Donc, je pense que je suis un peu trop dans l'extrême, mais c'est pour un peu, tu vois, schématiser.
Non, en fait, que je...
je pense que tu n'as pas vraiment besoin de sales.
Bah, je pense que tu rejoins Arnaud Bellinga, pareil, qui est même team, genre en mode, voilà, les meilleurs sales, en fait, ils vendent comme ça, enfin, tu vois, genre en faisant de la relation, grâce à du contenu,
Ouais,
donc vous
c'est
partagez un peu
ça.
la même chose.
Et du coup, ouais, je pense que tu fais plus des calls où genre en mode, c'est très orienté sales, ou quand tu arrives dans ta tête en mode, OK, il faut que je close et tout, c'est plus j'arrive, je te pose deux, trois questions. En fait, c'est ta phase de découverte, mais c'est assez chill, et puis tu l'emmènes vers ton produit, tu vois. Donc voilà, et pour revenir à la question, en fait, juste avant de rejoindre Lemlist, comme j'avais travaillé sur mon premier projet, j'avais pas le choix que de créer du contenu pour me faire connaître. En fait, je m'étais dit, OK, comment est-ce que je fais pour parler c'était un espèce de job board et autres, comment est-ce que je le fais découvrir aux recruteurs et aux candidats? Bah, je suis obligé de faire du contenu. Donc c'est à ce moment-là où j'ai poncé LinkedIn aussi. J'étais moins organisé que maintenant, mais je commençais à pousser déjà un post par jour. Et je générais déjà pas mal de traction côté de candidat, en fait. J'avais masse d'inscriptions tous les jours. J'avais des petites notifs un peu automatisées, j'avais des trucs, et ça s'inscrivait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Derrière, ça enclenchait des boucles d'emails, bookait des rendez-vous d'user research en automatique. J'étais en mode, OK, déjà, genre, je peux faire des trucs de ouf juste avec du contenu. Et en fait, le fait de faire du contenu, je faisais même pas du contenu pour les recruteurs. Je faisais du contenu sur le recrutement où je défonçais les recruteurs. Ça m'a amené beaucoup de recruteurs qui ont discuté avec moi et que j'ai, entre guillemets, closé, tu vois, sur mon projet, mon idée, qui voulait tester, etc. Donc c'est à ce moment-là déjà que j'avais bien compris l'importance de faire du contenu, que ce soit sur LinkedIn ou autre. Et quand je suis arrivé chez Lemlist, ça m'a, enfin, j'avais déjà cet ADN-là, tu vois, en moi. C'était déjà aussi dans l'ADN de la boîte. Donc ça m'a juste permis de me structurer encore plus et de pousser. Et en fait, je ne me suis pas dit, je ne vais pas faire d'emailing, pas de cold call, ni quoi que ce soit, et je vais faire du contenu. C'est juste que plus je faisais de contenu, plus j'avais de leads. Et en gros, je faisais mes 6 000 de MRR à l'époque par mois en objectif, en faisant du contenu. Genre, j'en voyais pas de séquences.
D'accord.
J'étais chez Lemlist, j'avais Lemlist, et je faisais pas trop de séquences de mailing. J'en faisais quelques fois pour tester des choses et tout, que justement j'aurais utilisé pour faire du contenu et autres. Mais c'était pas mon vrai levier d'acquisition, entre guillemets, de démo, tu vois. Je bookais toutes mes démos parce que je faisais du content.
Et du coup, pour rappeler pour les auditeurs, ta cible, c'était les head of sales, globalement, tu vois. Sales manager,
Ouais, head of sales,
CEO aussi.
head of growth, CEO, on les tapait aussi. Et après, tout ce qui était un peu agence aussi, les agences pas mal. Mais tu vois, enfin, en fait, plus on faisait du contenu, plus on avait de leads. Genre, c'était aussi simple. Il y avait une corrélation qui était directe. Et donc, moi, je faisais des posts sur LinkedIn tous les jours. Et tous les jours, du coup, ça me déclenchait des conversations. Et je faisais pas des démos, en fait, dans les DM LinkedIn. Juste, je parlais, ça va, machin, truc. Bah, viens, on fait un call. Et hop, tu vois, je rentrais en call, je bookais mes démos comme ça, je closais mes leads comme ça. Et tout se passait assez bien, tu vois. Ça nous ramenait, du coup, pas mal de leads en inbound. En inbound qui était généré, du coup, à travers mon contenu. Mais en fait, vu aussi le fait qu'on faisait tous du contenu, bah, on avait juste, je crois que c'était à peu près genre 1 000 leads inbound par mois, tu vois. Donc ça, je pouvais pas dire que ça venait de moi ou quoi que ce soit, mais juste comme on faisait tous du contenu, les gens venaient, free trial, tac, ils utilisaient l'outil, on avait 1 000 leads inbound, et puis nous, derrière, on pouvait boucler en bookant des démos avec eux et en les closant, tu vois. Donc en fait, la stratégie, elle reposait vraiment sur du content et sur l'inbound. Et si tu enlevais l'impact de la team sales sur la croissance, genre la boîte,
Elle
ça
continue.
n'avait pas d'impact, en fait. Il y avait vraiment, genre, on était minime, tu vois. On était un laboratoire d'expérience, et c'est pour ça, on en reparlera peut-être après, mais qu'après, on avait carrément arrêté de faire de la vente. On avait carrément arrêté de faire des démos, et on était devenus des marketeurs, parce qu'en fait, on faisait des séquences pour tester des trucs. Ensuite, on en faisait du contenu et on le partageait.
Trop bien. Et du coup, genre, justement, ce qui m'intéresse, c'est là-dessus, c'est que tu disais en fait que toute la boîte faisait du content. Donc, ça veut dire qu'en gros, globalement, c'est pas genre un sales qui s'est chauffé dans une équipe et qui s'est dit, bon, vas-y, moi, je vais faire du contenu parce que je pense que je pourrais choper, enfin, je peux choper des rendez-vous. Du coup, c'est vraiment un ADN, une culture de la boîte et aussi également une super bonne entente. On parle souvent d'alignement d'équipe marketing et d'équipe sales. Vous, c'était vraiment votre ADN?
Ouais, de ouf. En fait, je pense qu'un sales dans son coin qui commence à faire du contenu, il peut générer des rendez-vous. Il n'y a pas de problème, etc. Mais l'impact, ce n'est pas du tout le même que lorsque c'est vraiment établi dans la boîte qu'il faut avoir une stratégie où on va utiliser le contenu pour travailler la brand, faire connaître le projet, le produit, le service, peu importe. Et ensuite, derrière, que les sales vont venir mettre une couche, tu vois, pour de prospection ou autre. Donc pour moi, enfin, les sales qui vont nous écouter, ils doivent créer du contenu, ils doivent pas attendre, tu vois. que leur boîte, elles disent let's go, on fait un plan d'attaque, on attaque LinkedIn ou peu importe. D'ailleurs, j'ai fait du contenu sur plein d'autres plateformes. Mais ils doivent commencer. Mais la boîte, elle doit être derrière. Au bout d'un moment, en fait, il faut que les CEO, les head of, ou peu importe, je ne sais pas qui prend les décisions dans ces boîtes-là, mais qui se posent et qui se disent il y a une corrélation. Enfin, moi, je suis ultra convaincu que tout le monde va faire du contenu et que les boîtes vont devenir des créatrices de contenu, que les équipes communication, ça ne sert un peu à rien, ça va un peu bouger, les équipes marketing aussi. La conjoncture, elle est hyper hardcore, on est en train de dégraisser dans tous les sens, on n'a plus trop de budget. Les ads, ça coûte de plus en plus cher. Donc, on revient à l'essentiel et le contenu, c'est gratuit. Ça prend juste du temps, mais c'est gratuit. Et donc, tout le monde a commencé à créer du contenu. Et donc, il ne faut pas attendre. C'est maintenant ou jamais, quoi. C'est déjà un peu tard, entre guillemets, parce qu'il y en a de plus en plus qui le font. Mais c'est vraiment là, maintenant ou jamais, qu'il faut y aller.
Ouais, mais après, quand
Et
tu
ouais.
dis ouais, c'est un peu tard, parce que beaucoup de font du contenu aujourd'hui sur LinkedIn, on le voit, notamment je parle de LinkedIn parce que c'est beaucoup plus B2B en tout cas, dans quoique en fait aux US, tu vois, genre Twitter. C'est B2B à fond,
Ouais.
beaucoup moins en France, mais voilà. Mais par exemple, genre ce que tu dis, c'est que je pense par contre que tes boîtes, elles sont hyper en retard sur le fait que tu as un alignement des team sales ou des gens ou du market, ou un mec du market ou un mec du growth qui se chauffe à faire du contenu. Parce que typiquement, c'est une discussion que j'aimerais bien, on va pas la pousser à fond là-dessus, mais sur la question, tu vois, même du métier de growth, tu vois, où genre, parfois c'est souvent le mec qui fait du growth qui fait du contenu, mais au final, enfin, tu vois, peut-être son métier à lui, c'est peut-être de faire en sorte que tout le monde fasse du contenu, peut-être corriger les gens en disant là tu devrais faire ça,
Yes.
ça, 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 ça.
Je
Mais
suis
du
grave
coup, voilà,
d'accord avec ça.
elles sont en retard là-dessus, quoi. Pour le coup,
En
on est
fait,
loin.
tu vois, pour rien te cacher et tout, l'organisation qu'on avait chez Lemlist, elle était hyper stylée sur ça. Et ça montre que créer du contenu, et du coup, notamment LinkedIn, c'était à fond dans la strat. On avait compris l'impact. C'est que les sales, ils étaient en binôme avec une personne au marketing. Et
Ouais.
donc, en gros, on créait du contenu. Les personnes au marketing, elles créaient du contenu aussi sur leur compte perso, les sales aussi, etc. Mais le fait d'être en binôme comme ça avec une personne au marketing, c'était hyper intéressant. Tu vois, moi, j'avais Lucille avec moi et vraiment, on tuait le game, c'était incroyable. En fait, tous les lundis, je me posais avec Lucille. Moi, j'écrivais mes petits contents. On faisait une review de toutes mes idées et elle n'était pas là pour écrire pour moi ou me faire, je sais pas, me refaire mon copywriting et autres, puisqu'on avait tous en fait ces compétences-là au fur et à mesure qu'on les avait apprises. Mais elle était là pour me donner son avis extérieur, de me dire ouais, ça c'est pas ouf, ça tu pourrais un peu l'améliorer. En fait, on se challengeait, ça nous prenait une demi-heure à tout casser. Et elle était là aussi pour me dire ok, là au market, tu le sais peut-être pas encore, mais on est en train de travailler sur le lancement de tel truc, de tel machin, donc ça va arriver dans 3 semaines, commence à publier un peu sur ces sujets, boum boum, et tu vois, on alignait les planètes en fait. Et ça me prenait
Okay.
une demi-heure, genre littéralement, de collaborer avec elle. Sinon, la création de contenu, ça me prenait, je sais pas, entre 30 et 1 heure par jour où je me posais. Et j'écrivais. Et en fait, j'écrivais pour faire des posts LinkedIn, mais le fait d'avoir écrit tous les jours comme ça pour créer du contenu sur LinkedIn, bah aujourd'hui en copywriting, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Donc quand je dois faire une page de vente, bah, c'est pareil, c'est assez simple. Quand je fais des emails, puisque je faisais pas mal d'emails aussi chez Lemlist, c'était simple. Donc de toute façon, le copywriting, c'est un skill qu'il faut avoir. Autant le travailler. Et pour le coup, je le travaillais tous les jours en créant du contenu sur LinkedIn. Donc tous
Non,
les
mais okay.
jours, je postais.
En fait, c'est super smart ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a deux choses. Ce que tu dis, c'est que tout le monde se prend la tête, voit tellement de contenu sur comment aligner les équipes marketing et sales, alors qu'au final, c'est hyper simple en fait, à travers justement ce prisme du content. Et le deuxième truc que tu dis, c'est qu'en fait, au final, bah, dans ta routine, genre le fait d'écrire, c'était ça remplaçait une séance de call,
Ouais.
ou ça remplaçait ta séance de. Enfin, peu importe, tu vois, genre, mais en fait, du coup, voilà, ça rentrait dans. C'était une tâche globalement que tu faisais, qui était une tâche sales, en fait, au final, qui était devenue une tâche sales.
C'est ça.
Ok, très cool. Du
Et
coup,
juste, ouais, attends,
ouais.
excuse-moi, je te coupe, mais en gros, tu disais que c'est compliqué d'aligner les équipes marketing et sales. Non, on sort un peu du sujet, mais pour moi, enfin, c'est, je sais pas pourquoi c'est compliqué, j'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, une équipe marketing, elle doit générer des leads, une équipe sales, elle doit en générer et en closer. Enfin, ils ont les mêmes objectifs. Et je crois qu'en fait, ils se prennent juste la tête parce que les marketeurs, ils veulent dire, ouais, nous, on a généré tant de MQL, de machin, de trucs. Les sales, ils se tirent la bourre en mode, vous générez que des leads éclatés. Enfin,
En fait, pour moi, je pense
c'est,
que
ça sert à rien, tu vois.
ouais, après, moi, je pense que ça joue plus au niveau du closing, tu vois, genre cette guerre, enfin, historique, qui est du fait que j'en avais parlé avec d'autres head of sales, tu vois, le fait que, comme en fait, les objectifs ne sont pas alignés. Tu vois, genre là, avec le content, ce que je trouve intéressant, c'est peut-être que les objectifs vont peut-être essayer d'être alignés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un sales, il n'a pas les mêmes objectifs qu'un marketeur. Si le marketeur, en fait, il ne génère pas forcément des leads hyper quali, Bon, ça ne va rien changer à sa paye, tu vois. Genre, par contre, en sales, notamment dans les boîtes, et ça dépend, en fait, tu vois, genre les boîtes, tu vois, mais genre, sur de la vente complexe, ça peut vraiment avoir un impact. Tu peux, genre, juste gagner peut-être, allez, 1 500 balles à gagner 4 000 euros en fonction, tu vois. Genre, ça peut vraiment bouleverser ta vie, quoi. Genre, voilà. Et donc, je pense que c'est plus là-dessus. Mais tu vois, genre, j'avais discuté avec une aide au sales qui s'appelait Valentine, de maison. Et elle, en fait, dans leur boîte, ce qui serait intéressant, c'est que le head of market et le head of sales, ils avaient le même objectif. Ils étaient objectivés sur le chiffre d'affaires. Et du coup,
Okay.
tu vois, en fait, tu peux plus faire la guerre. C'est terminé.
Mais moi,
C'est terminé.
c'est, tu vois, c'est la meilleure chose à faire. Et après, il y a d'autres trucs aussi sur la guerre, tu vois, de bah non, le lead il vient parce que je fais du cold call, ou alors non, c'est parce que j'ai fait de l'ads. En fait, on s'en fout déjà, le lead il est là, donc c'est cool. Et ensuite, c'est un truc, je sais pas, aux États-Unis ils sont un peu plus avancés, j'ai l'impression, sur ça. Mais en fait, tu me diras si je me trompe, tu vois. Mais pour moi, un cold call, c'est pas vraiment un cold call. Genre, quand tu bookes un call avec un lead, en vrai, il a dû te voir 3-4 fois peut-être sur YouTube, je sais pas quoi, dans le métro, LinkedIn. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là et tu peux pas le savoir. Et moi, ce que je faisais vraiment à chaque début de call quand j'étais. C'était cool parce qu'en fait, j'étais presque marketeur et mais donc, quand je faisais mes débuts de call et mes phases de découverte, la première question que je posais, c'est comment t'as entendu parler de nous, tu vois? Et c'était toujours referral, content, ou alors j'ai vu un webinar ou un truc comme ça, tu vois. Et là, je captais que les gens, ils venaient de LinkedIn, tu vois, ils venaient du contenu. Et ils venaient pas parce qu'ils avaient vu un article de blog ou je sais pas quoi, ou alors c'était très rare. Ils venaient pas parce que j'avais fait un email ou un cold call. Ils venaient parce qu'ils m'avaient vu sur LinkedIn. Et quand j'envoyais des séquences d'emailing, j'avais dans ma signature ma photo, la même qui était sur LinkedIn. Ma tête, ils la voyaient H24 tous les jours. Même s'ils se souvenaient pas de moi, tu vois, ils se disaient, putain, j'ai déjà vu cette photo violette de l'emlist, de machin, de truc. Vas-y, je prends un rendez-vous. Et
Ouais, il
donc.
faut que je lui parle parce qu'il faut que je sache qui c'est, je le vois trop souvent,
C'est
etc.
ça. Et
En fait, là où tu as raison, c'est que, genre, chez Lowork, la boîte qui a racheté ma boîte, eux, ce qu'ils faisaient, et je trouvais ça smart, c'est qu'en fait, par exemple, nous, les sales, ils ont donné une liste des boîtes qu'on allait targeter, genre, soit en emailing, soit en cold call, au market. Le market faisait des campagnes, du ads, des campagnes sur. Donc, du coup, en fait, tu vois, genre, t'appelais, mais en fait, la personne, elle t'avait vu 20 fois sur
c'est
LinkedIn,
ça.
en disant si vous avez besoin, et ça marchait super bien. Donc,
C'est enfin. Encore une fois, quand tu fais de la vente, il faut juste contacter la bonne personne au bon moment, etc. Et en fait, le bon moment, c'est quand elle t'a vu 10 fois et qu'elle commence à se poser des questions et que c'est à ce moment-là qu'il faut l'appeler. Donc, c'est la petite parenthèse, mais je pense que enfin, enfin, je sais pas, quand tu arrêtes d'être un peu un gamin dans ta boîte à vouloir tirer sur le marketing et les marketeurs à tirer sur les sales, ben en fait, c'est simple de trouver des moyens d'aligner les deux. Et moi, je me considère même pas comme un sales ni comme un marketeur. Je sais pas, je suis juste quelqu'un qui est là, qui essaie de faire du cash. Du coup, le sales, ça permet de faire du cash. Le marketing, ça permet de faire du cash. Bon, moi, ben voilà, tu vois, je fais les deux. Donc,
En fait, il faudrait peut-être
voilà.
trouver un nom, justement. En fait, bon, en tout cas, ce que tu dis, et je pense que tu as raison, moi, ce que je le dis avec ces mots-là, mais je pense que le content, ce sera, enfin, c'est même pas, ce sera, ça l'est déjà, mais genre, c'est un, pour le sales, parce que c'est pas si évident aujourd'hui dans les boîtes que B2B, que ce soit comme ça, mais tu vois, genre, ce sera un canal à part entière, comme le cold call, comme l'email, et donc ça doit être dans ta stratégie multicanal, en fait, en réalité.
Exactement.
Mais du coup, justement, tu vois, on est loin de cette réalité. Toi, je pense que tu étais dans une boîte, l'Emlist, on va dire que fait partie du haut du panier dans sa manière. Enfin, en gros, on va se dire les choses, c'est-à-dire que très américaine, en fait, dans son approche aussi également de faire du business. Du coup, tu es parti aussi également à Refty, tu as apporté aussi également cette touche-là. Mais aujourd'hui, par exemple, on est une boîte B2B. Je suis un sales et moi, en fait, j'ai un head of sales ou un sales manager qui me demande de faire des calls. Parce qu'en fait, il va me demander en fait des reportings, il va me demander de faire
Ah,
un
c'est
email.
sûr.
Et toi, en fait, tu as cette intuition, en fait, tu as envie de faire du. Tu te dis, OK, je galère. Parce qu'en fait, la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui encore plus, les canaux sont saturés. Donc, les gens galèrent. On le voit, ils ont du mal à prendre des rendez-vous. En fait, voilà, leur agenda, il y a plein de trous et c'est pas normal, en fait. Tu vois, genre, quand tu sais, tu dois booker des démos. Comme tu pouvais le faire chez MLMList de manière assez simple. Comment un sales, il doit s'organiser? Parce que tu me dis, ça prenait 1 heure. Déjà, en fait, il y a la question, tu vois, je pense, de la confiance. Qu'est-ce que je raconte? Comment il doit s'organiser, typiquement au quotidien, et comment il peut l'intégrer dans ce qu'il fait déjà, pour justement prouver au sales manager que ça paye, tu vois, parce qu'il y a
Ouais, je vois.
en fait de l'éducation, tu vois.
En gros, pour moi, pourquoi est-ce que j'arrivais à poster une fois par jour, même des fois 2 fois par jour pendant une grande période? C'est juste une question de regard. C'est comme un sales, s'il arrive à prospecter 100 personnes par jour, c'est parce qu'il est ultra organisé, etc. Il tient son CRM à jour, patati patata. Donc, le premier point sur la partie. Bon, déjà, il faut être organisé. On pourra parler un peu de moi, comment est-ce que je m'organisais. Mais pour répondre à la question un peu en suivant ton raisonnement. l'aspect confiance, est-ce que j'ai la légitimité ou pas? On s'en fout, tu vois. Si t'as pas de légitimité, ton like, ton post, il marche pas. S'il marche pas, personne ne le voit. Bon, bah, next step, on en fait un autre et on voit ce qui se passe. Et ensuite, on a tous un peu de la légitimité dans un sujet. Si tu es sales depuis un an ou même 6 mois dans un domaine, bah, de toute façon, au bout d'un moment, tu commences à le connaître. Moi, quand je suis arrivé chez Gamlist, j'avais jamais fait de sales avant. Et pourtant, je faisais que des posts sur la partie sales, tu vois. Genre, au bout d'un moment, en fait, les choses, c'est un peu de la logique et tout. Tu t'apprends au fur et à mesure. Moi, j'ai orienté ma ligne ITO sur le fait que bah, j'étais en pleine phase d'apprentissage avec eux. Donc, bah voilà, j'ai fait un test, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai appris, j'ai fait ça, j'ai galéré sur ce rendez-vous, j'ai fait de la merde ici. Enfin, tu vois, genre, juste, je partageais. Donc, soit tu as un expert et tu as des choses à raconter et raconte-les, soit tu n'es pas un expert et tu montres que tu ne l'es pas et que tu es en train d'apprendre, tu partages tes learnings et autres. Parce qu'il y a plein de gens qui sont soit en dessous de toi en termes d'expérience, soit au même niveau et que ça va intéresser. Du coup, la légitimité, tu vois, c'est un peu un faux problème quand les gens veulent faire du contenu. Ensuite, sur l'organisation, bah, c'est vrai que c'est compliqué quand tu as ton head of qui te dit fais 100 calls par jour, sinon ça va pas, tu vois. Tu dois descendre la liste. Enfin, je sais pas, en gros.
Comment tu t'organisais toi concrètement? Sauf que tu disais en fait tu étais ultra organisé, mais du
Ouais.
coup ouais, c'est quoi
En
le
fait.
parce qu'on va en reparler après tout à l'heure de Track, mais c'est aussi ce qui t'a inspiré Track parce que tu l'as expérimenté, tu as fait des tests, etc. etc. ce qui fait que voilà aujourd'hui tu es capable de proposer une super orga, mais du coup voilà comment tu procèdes à faire tout.
En fait, ouais, c'était simple. En gros, j'avais mon orga dans Notion. Avant d'avoir Track ou quoi que ce soit, j'avais mon orga dans Notion. Et en fait, à chaque fois que j'avais une idée, je la capturais. Tu vois, c'est vraiment presque en 4 étapes. C'est tu captures tes idées, tu les draftes, je les publiais, je les analysais et puis enfin, je recyclais potentiellement. C'est impossible de se dire, j'arrive le matin au bureau à 8 h, je me pose et j'écris un post. Il faut qu'à 8 h 30, il y ait un post qui soit parti. Tu vois, ça va pas marcher. Tu vas faire 10 jours et après, tu vas t'essouffler, ça va plus fonctionner et autres. Enfin, moi, j'ai jamais réussi. Et honnêtement, ceux qui disent qu'ils font ça, c'est des mythos ou alors ils sont pas encore arrivés au stade. Non, mais tu vois, ils sont pas encore arrivés au stade où vraiment il faut industrialiser le contenu parce qu'en fait, ça devient un levier d'acquisition. Quand ça devient un levier d'acquisition, c'est fini. Tu peux plus faire le mariole à pas avoir d'orga et tout. Tu vois, tout le monde commence à créer du contenu. Tu peux être organisé.
Ouais, surtout aujourd'hui, ouais.
Du coup, mais même un créateur, hein, créer du contenu, c'est son métier. Il doit générer du revenu. En fait, créer du contenu, c'est son seul truc, donc il doit être organisé, tu vois. Donc tu dois être organisé. Donc moi, je capturais toutes mes idées. Genre, j'étais dans le métro, je voyais un truc, un machin, ça m'inspirait, je capturais l'idée, je la notais,
Comment
je
tu l'as
faisais une draft.
capturé?
Moi, c'était un peu freestyle à l'époque. Je prenais Slack et je m'envoyais un message. Je m'envoyais un message sur Slack. Et après, quand j'arrivais, tu vois, j'avais toutes mes idées. Et je mettais le petit check vert en mode, OK, cette idée, elle est rentrée dans mon système, dans mon Notion. Je l'ai remis dans mon Notion, etc. etc.
Ok.
Donc j'avais toutes mes idées et tous les matins, je prenais 30 à 1 heure de mon temps pour écrire et du coup un peu m'améliorer sur mon copywriting et tout. Et donc je profitais de ce moment-là pour écrire des posts. Et donc je me posais et j'écrivais des posts. C'était le moment où je les draftais. Donc c'est pas grave si le post n'était pas fini ou quoi que ce soit, je draftais des posts. En fait, au bout d'un moment, quand tu commences à drafter comme ça tous les jours des publications, bah, tu commences à avoir plein de drafts. Donc après, tu arrives à un moment où tu as des drafts qui sont prêts, parce qu'en fait, tu arrives au bout, tu penses que c'est un bon poste. Donc j'avais ma colonne de postes prêts. Et puis ces postes prêts, je les planifiais, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, j'avais, je sais pas, là, si j'ouvre mon Notion, je dois avoir, je sais pas, 120 idées, 35 drafts, 20 postes de prêts, et puis 10 de planifiés, tu vois. Et en fait, ça tournait tout seul. C'était juste une habitude qui faisait que ça commençait à tourner, comme quand tu te balades sur LinkedIn, que tu vois un prospect qui est intéressant et que tu le contactes. Tu vois, tu l'as contacté parce que, je sais pas, tu l'as vu et c'est dans ton habitude de prospecter de cette manière-là. Bah, moi, c'était pareil. Je me posais, j'écrivais du contenu. Et vraiment, au fur et à mesure, j'avais plein de contenus qui commençaient à être prêts. Et donc, il fallait juste que je les planifie, tu vois. Et donc, quand je faisais mon rendez-vous avec Lucille, bah, on avait plein de contenus, plein de sujets, tout était organisé. Et on se disait, OK, qu'est-ce qu'on va poster cette semaine? Pourquoi? Comment? J'allais voir Simon, l'autre sel, je lui disais, tu postes quoi, toi? Tac, tac, OK, voilà, tu vois. Et en fait, j'avais mon planning édito et j'avais une semaine de contenu d'avance de cette manière-là, tu vois. C'était vraiment ultra organisé. Donc, toute cette orga-là, si tu ne l'as pas, franchement, c'est compliqué, tu
Non, mais
t'épuises.
en fait, c'est hyper clair. En fait, pour moi, ben, tu vois, ça ressemble, enfin, c'est à la limite le même pattern que ton orga que tu dois avoir sur ton call call où tu dois avoir ta liste qui doit
C'est
être
ça,
prête, ton numéro qui est
exactement.
prêt, ton script qui est prêt et tu déroules. Il n'y a pas de place à l'improvisation. Et donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à l'improvisation de la même manière.
Ouais, c'est ça, tu peux plus improviser. En fait, si tu veux que ça fonctionne et tenir dans la durée, tu peux pas improviser, ça fonctionne pas. Et moi, je me souviens, un de tes podcasts, tu disais que t'atteignais tout le temps tes objectifs sales avant, mais c'était à la fin du mois, tu étais sur les rotules. Et quand tu as commencé à t'organiser, tu les atteignais, tu vois, je sais pas, mi-mois et c'était chill. Bah, c'est la même chose quand tu crées du contenu. Soit tu cours derrière tes posts et tu es en PLS,
C'est
soit
là
tu
où je
poses un
viens.
peu. Ouais. Mais tu vas réussir, t'inquiète pas. Et soit tu te poses un peu et tu t'organises comme il faut et ça déroule, tu vois. Donc en fait, j'étais comme ça déroulait, j'étais ultra, ultra pépère. Et donc, je pouvais passer du temps à me balader sur LinkedIn, à répondre aux commentaires, à aller voir les gens qui avaient liké, à enclencher des conversations avec eux. Parce qu'en fait, c'était un head of sales, je sais pas quoi, tu vois. Moi, vraiment, la façon dont je prospectais, c'était, j'allais voir la liste de ceux qui avaient vu mon profil et tous les head of, tu vois, je les contactais en fait. Et tous les gens que je kiffais, hello, ça va, tu racontes quoi? Comment ça se passe au niveau du business? T'as des petits tips au niveau sales? Ouais, bien, on fait un call et hop, tu vois, je les passe des découvertes et on closait. Et c'était tout. C'est ma meilleure phrase d'amour. Tu vois, vraiment, ma façon de prospecter, c'était hello, comment ça va? Et je parlais à la personne et elle m'avait vu 10 fois dans son feed. Genre, bien sûr qu'elle va me répondre. Et donc, je faisais comme ça, tu vois.
Suis d'accord. Et en fait, le truc que j'aimerais juste te poser comme question, c'est typiquement, je vais prendre un exemple concret. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai une cible, on va dire, pas plus DRH, par exemple, etc. Tu penses que ça marche de la même manière? Et est-ce que je suis obligée, parce que je sais que c'est une discussion que j'avais avec d'autres sales qui commercialisaient la même chose. Est-ce que c'est obligé de faire du contenu sûr, tu vois, qui va intéresser les DRH ou pas? Tu vois, genre, il y a toujours cette question-là. Je veux créer du contenu. Est-ce que je suis obligé de faire du contenu qui va les intéresser sur leur sujet? Ou est-ce que je peux juste tout simplement créer du contenu? Parce que, avec cette fameuse méthode-là, tofu, mofu, bofu, par exemple, où finalement, parfois, il y a des gens,
Ouais,
ils écrivent
ouais.
des choses, ça n'a rien à voir.
Yes.
C'est quoi ton avis là-dessus?
Moi, la méthode tofu, bofu, mofu, je la suis sans trop la suivre, tu vois. Vraiment, j'y vais au gré de mes envies et je sais que
Juste
parfois, il faut que je.
là pour les
Ouais, en fait, c'est comme un funnel et tofu, donc c'est top of funnel, c'est des contenus qui vont être hyper larges, qui vont parler à plein de personnes et du coup, qui vont permettre d'attirer, entre guillemets, tu vois, dans ton filet plein de gens. Ensuite, tu as mofu où là, tu commences peut-être, je sais pas, à parler. Tu vois, si je prends ton exemple. Avec la partie recrutement comme dans ta boîte d'avant, tu pouvais parler en mode tofu, de l'entrepreneuriat, de plein de trucs et autres. Ensuite, en mofu, tu pouvais commencer à parler un peu de recrutement, les tendances et je sais pas quoi. Et en bofu, tu pourrais faire un retour d'expérience sur un client, partager des learnings, des choses comme ça, tu vois, sur l'utilisation de ton outil. T'es même pas obligé de dire qu'ils ont utilisé ton outil, mais ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait des events en ligne, tac tac, ils ont eu des retours, etc., etc. Tu vois, en tofu, tu pourrais parler de marque employeur qui est un sujet ultra large et qui reste dans le recrutement, etc. etc. Donc, c'est vraiment à toi de voir un peu comment tu veux construire ton tunnel et ton funnel comme ça. Mais justement, moi, je pense qu'il faut parler d'un peu de tout. Tu vois. Tu peux pas, quand tu pourrais, il y a toujours des exceptions, mais c'est compliqué de toujours parler de juste ton produit qui est, je sais pas, si je reprends bah, Cube, tu vois, un outil pour faire des événements en ligne, tu peux pas parler de ça tous les jours. Enfin, au bout d'un moment, tu as fait le tour et c'est un peu complexe, tu vois. Et donc, il faut prendre du.
Ça marche
C'est,
pas.
ouais, ça marche pas et puis ça peut marcher, mais c'est juste. Ça peut pas marcher tout seul. Il faut qu'à côté, tu parles un peu bah, de marque employeur, de ci, de la nouvelle tendance HR, de machin, de trucs. Tu vois, faut que les gens, tu les intéresses. En fait, faut que tu intéresses ta cible, puis ensuite. Au fur et à mesure, tu les tires vers ta solution, tu vois. Je sais pas, c'est comme le sales un petit peu en ce moment où les gens ils commencent leurs emails avec j'ai trouvé une étude, patati, tu vois. T'essayes de leur montrer qu'il y a des trucs en marque employeur qu'il faut faire et autres, et puis après tu leur vends ta solution. C'est un peu la même chose sur du contenu. Il faut diversifier un peu et il y a toujours moyen de diversifier, tu vois. Genre, t'es sales, tu fais du cold call, bah, tu peux parler de sales, tu peux parler d'organisation sales, de revenus, de plein de trucs. Un sujet, il y a toujours plein de sujets annexes qui gravitent autour. Donc, il faut créer du contenu autour de tout ça pour moi.
Ok, donc du coup, par exemple, aujourd'hui, comme enfin, on avait parlé de ça, tu vois, l'exemple des boîtes aujourd'hui qui sont peut-être un peu en retard là-dessus, et d'intégrer en fait cette méthode-là dans ta stratégie multicanal, c'est-à-dire que tu fais ça, tu fais ton cold call, tu fais de
Ouais.
l'emailing et tu continues à faire des salons physiques si tu fais des salons physiques, etc. Et du coup, ça s'intègre complètement et ça va générer en fait un max de rendez-vous.
Dans ta strat, quand je vais dans des événements, on me dit ah, mais c'est ma run de LinkedIn, hein, machin, tu vois. Et en fait, ça se trouve, c'est un client, enfin un prospect, tu vois. Et du coup, c'est plus facile à closer si, comme on le considère comme un vrai levier, tu fais du contenu, des trucs, des machins, ça te génère peut-être, je sais pas, tu peux faire des lead magnets, ça te génère des emails, tu fais de la prospe avec, tu as plein de likes et de commentaires, bah, tu cold call ceux qui ont commenté. Tu vois, en plus, genre, tu sais, quand tu fais du cold call ou que tu envoies des emails, tu te dis toujours en mode qu'est-ce que je vais raconter et tout en première phrase. Bah là, tu peux juste dire hey, c'est Marwan, t'as commenté mon post et tout, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu vois, qu'est-ce que t'as pensé du coup du sujet de la marque employeur? Bam, bam, bam. Ok, bah trop stylé. Nous, on est en train de travailler sur tel sujet. Est-ce que ça t'intéresserait que je t'en parle? Enfin, tu fais du call-call mieux que moi, donc tu pourras donner des conseils,
Ouais,
mais.
non, mais c'est clairement, mais clairement, c'est hyper efficace parce qu'aujourd'hui, enfin, je pense que le niveau, alors je dirais même pas le niveau zéro parce que je pense qu'il y a encore plein de boîtes qui le font pas, mais genre, allez, le niveau 1 en fait, tu vois, certes, les gens vont faire du call-call sur la base de ce qu'ils ont vu sur leur outil, qui a ouvert leur mail. Sauf que le problème de ça, en plus, je sais pas, on en parlait avec Adrien Watt, qui est un peu un coaching d'outbound, c'est que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, parce que parfois, c'est une donnée parfois qui est fausse. Tu peux avoir ton mail, tu crois qu'il est ouvert, mais il n'a pas été vu, etc. Donc tu ne peux même plus te baser là-dessus. Alors que là, tu vois, quelqu'un qui a commenté ton post, il a pris la démarche de.
Ça.
Genre, en plus, ça demande du temps, tu vois. Genre, moi, je vois, par exemple, il y a des moments où je me dis, bah, tu fais de la création de contenu, donc tu dois commenter les trucs. Je commente les trucs de mes potes, mais au-delà de ça, tu dois commenter les trucs. Donc déjà, ça te prend du temps. Enfin, tu vois, genre. Quand tu fais du contenu, la partie commentaire, ça te prend quand
Ouais,
même
mais de ouf. De
bien une
ouf.
demi-heure par jour, quoi. Tu
Mais je réfléchissais là pendant que tu parlais. En vrai, je suis en mode, tu peux même faire enfin parasiter les contenus des autres, tu vois. Quelqu'un d'autre qui fait du contenu sur le recrutement, tu vas voir les commentaires. Et puis tu peux justement utiliser le contenu de l'autre personne en envoyant un petit message sur LinkedIn en disant ah, j'ai vu tes commentaires, c'est quoi ta pensée sur le truc, tu vois, détaille un peu et tu te déclenches des conversations. De toute façon, la
vois.
vente, c'est juste parler aux gens, créer des relations, tu vois. Donc en fait, même si toi, tu ne crées pas de contenu, déjà tu peux, genre, ne serait-ce que, tu vois, tu me disais tout à l'heure, ouais, comment je vais convaincre mon head of sales et autres. Ok, bah écris pas de contenu, mais change un peu ta manière de prospecter, essaye de partir du contenu des autres, de tester des trucs ou je sais pas. Et de voir un peu si tu génères plus de rendez-vous ou si tu en génères la même chose. Et après, tu peux aller voir ton head of. Et
Yes.
il faut pousser, tu vois. Il y a un head of qui ne comprend pas que le contenu, ça ne fonctionne pas. Genre vraiment, il ne faut pas qu'il soit head of. Genre, là, je vais faire des ennemis, mais.
Je sais pas. Je pense qu'il y a des phases de transition. Mais ouais, par contre, on a beaucoup parlé de LinkedIn, mais là, du coup, j'ai envie de parler. On parle de d'autres types de canaux parce que tu as fait quand même un truc incroyable avec notamment avec TikTok. Parce que je pense que tu vois, LinkedIn, tu peux convaincre ton sales manager.
Ouais.
Enfin voilà, mais tu vois, genre les autres canaux, tu vois, genre moi aujourd'hui, je suis en train de bosser pour un client et du coup, mon canal, ça va être Instagram, tu vois, genre, et c'est nouveau pour moi. Donc, tes messages, tes DM, c'est pas la même chose, la manière dont tu dois interagir, ça n'a rien à voir. Du coup, en fait, moi, j'aimerais bien avoir justement ton retour un petit peu, que tu expliques un petit peu avec Refty. Du coup, tu as parlé de l'émiliste, Refty,
Ouais.
donner un peu le cadre et qu'est-ce que tu as mis en place comme machine. Et justement, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as réussi encore une fois, à entraîner l'équipe.
En gros, ouais, mais je vois un peu où tu vas en venir avec TikTok, parce que je t'avais partagé ça. Mais en fait, quand je suis arrivé chez RFT, le premier truc que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, OK, il faut qu'on pose la brand. Parce qu'une fois qu'on a la brand, moi, je sais ce que je vais devoir faire en contenu. Tu vois, j'ai mes piliers de contenu et je vais pouvoir pousser à fond dessus. Donc, on a posé la brand et on s'est dit, à l'époque, on faisait du recrutement. Et on s'est dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aider les candidats, même si on vend aux entreprises. Donc à partir de là, tu vois, pour moi, c'était ultra clair. J'avais le chemin, c'était OK, on va faire du contenu pour aider les candidats, pour parler de si, analyser le marché, machin, etc. etc. C'est où l'endroit où il y a le plus de candidats? C'était TikTok, tu vois, pour nous. Et donc, ça nous a coûté de l'argent au début. Et je pense que Corentin, il a été trop smart de me laisser le faire. Mais 99% des boîtes m'auraient dit c'est mort. On a lancé un compte TikTok, tu vois, où on parlait, genre, on donnait des conseils aux candidats. Alors que nous, derrière, on faisait de la prospection sur des TA, des talent acquisition, etc. Donc ça n'avait pas de sens à la base. Hein. Mais le truc, c'est que bah, moi, j'avais cet aspect du content et je sais que le contenu, c'est ultra puissant. Donc je me disais, OK, déjà, ça va nous rendre crédibles. On va être crédible sur le marché du recrutement. Quand on va parler à quelqu'un, il va nous écouter. Ensuite, on a commencé à faire du contenu. La cible des recruteurs, je crois que c'est la pire. Impossible de parler avec eux. Les pauvres, ils sont tout le temps harcelés. Ils n'en ont rien à faire. On leur envoyait des vidéos, genre vraiment, il y a des vidéos personnalisées et ils ne calculaient pas. Genre, ça ouvrait, ça regardait la vidéo, ils étaient contents et ils partaient, ils s'en foutaient. Tu vois. Et quand je dis des vidéos personnalisées, ce n'est pas juste on donnait le nom de la personne. Moi, j'allais sur leur page welcome, je leur donnais des conseils, je leur disais que c'était pété, leur flow était nul, on pouvait faire mieux, boum, personne ne calculait. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, j'ai pris le compte TikTok, on faisait 2 millions de vues par mois, on l'a monté à 2 millions de vues par mois et à 60 000 followers en 4-5 mois. En faisant du contenu, encore une fois. Genre, on avait l'orga, le process, on a commencé avec un post, une vidéo TikTok par jour. Ensuite, j'ai vu que ça prenait, j'ai dit, OK, on y va à deux. Et donc, on a déroulé comme ça. Ça m'a saoulé, tu vois. Et donc, j'ai pris tout le CRM, genre, j'ai fait un extract de tous les personnes qu'on avait contactées, et je les ai tous refollow up en leur disant, je fais 2 millions de vues sur TikTok, est-ce que tu veux venir faire une interview sur notre compte? Et tout le monde nous disait oui. Et genre là, je bookais, genre, je sais pas, j'avais, dans le pipe, j'avais genre 50 interviews de prêtes, tu vois. Et je stoppais parce que j'en arrivais pas à tout gérer. Et là, il y avait tout le monde qui nous disait oui, tu vois. Genre, il y avait Rassam de chez Free, Paul de chez Docto, alors que eux, ils t'auraient jamais calculé. Tout le monde disait oui. Et donc, en fait, ils venaient à Station F, on faisait une interview. Ensuite, je les mettais dans un bureau avec Vincent qui leur faisait une démo. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai utilisé le content en mode prospection.
Hyper smart.
Je me suis dit, c'était trop bien des deux côtés, tu vois. J'avais besoin de générer du lead, j'avais besoin de générer du contenu. Faire des interviews, ça me générait plein de contenu. Et ben, on mixe les deux et viens faire du contenu. Tu vas parler de ta boîte devant ton audience parce que tu cherches à recruter, etc. etc. Et à la fin, TikTok, ça nous générait du revenu. En fait, on avait facturé 5 000 ou 7 000 balles, je ne sais plus, NG, qui est venu en mode lead inbound, en fait. Tu vois, lead inbound, il vient, coucou, on vous a vu sur TikTok, on aimerait travailler avec vous. Ok, let's go. On rentre par la porte de TikTok et ensuite, on gravite dans le compte. Tu as Nestlé qui nous ont contacté. On n'avait pas avancé avec eux, mais ils nous avaient contacté en mode inbound aussi. Tu avais toutes les agences de com RH où le rapport de force, il est vachement inversé quand tu arrives et que tu leur dis, on fait 2 millions de vues par mois. Donc, tu as besoin de travailler avec moi. Ouais, et du coup…
Du coup, tu viens un vrai allié. C'est ça.
Ouais. Et c'était un méga asset, tu vois, qu'on a creusé et qu'on a exploité, genre vraiment à mort. Après, on a fait un pivot, donc on ne l'a plus exploité. Mais tu vois, on a closé Talent aussi, qui voulait travailler sur le marché français, des vidéos pour eux sponsorisées.
Un prospect pas super simple.
Ouais, pas super simple et tout. Mais tu vois, ils sont venus, ils nous ont dit, votre solution, elle est trop cool pour le recrutement, mais on s'en fout un peu. Nous, on est venus pour TikTok, tu vois. Donc presque, en fait, TikTok, ça devenait un produit carrément de notre écosystème. Alors qu'à la base, moi, je l'avais identifié comme un asset qui allait renforcer notre brand, notre positionnement, qui allait renforcer notre crédibilité. Et au fur et à mesure, je me suis dit, OK, en fait, là, je peux commencer. Maintenant qu'on fait des vues dessus, je peux l'exploiter. Tu vois. Je vois qu'on peut l'exploiter. Je vois que des gens nous contactent pour payer des vidéos sponsorisées. Je m'en fous parce que ce n'est pas notre produit. Donc, je m'en fous de faire payer quelqu'un pour faire une vidéo sur TikTok. Par contre, ça m'intéresse de le closer sur notre SaaS. Et bien, vas-y, je lui propose des vidéos gratuites. Et en fait, je lui fais des démos en contrepartie. Tu vois.
Bien. Et donc,
J'avais fait un carnage. Je suis parti à Vivatech, je te jure, genre, la seule phrase que je disais, c'est je suis créateur de contenu sur LinkedIn, je fais 2 millions de vues par mois, j'ai envie de faire une vidéo avec vous. Est-ce que vous pouvez me passer le DRH? Et tout le monde m'a ramené le DRH. Et j'avais Adeco, j'avais tout le monde. Genre vraiment, c'était n'importe quoi. Meilleur moyen de prospecter. Genre, j'ai jamais trouvé aussi puissant.
Ok. Bah, en tout cas, c'est trop cool. Et en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que tu vois, genre, on parle souvent de. Je fais une parenthèse, après je vais la fermer parce que j'ai rien qu'on parle de track, mais. On parle souvent de la difficulté de recruter des sales ou de donner envie aux gens de faire ce métier parce qu'il est vu comme soit dur ou il est vu comme, tu vois, genre en fait, il faut être shark, etc. Ouais. Et ce que j'ai vu en fait dans la manière dont toi, tu as été, je sais pas quel mot donner, parce que sales, marketeur, growth, voilà, tout ça à la fois, quoi. Mais tu vois, genre en fait, ça te donne aussi le côté un peu entrepreneur. Que je pense que les bons sales, ils ont, et ça t'éclate parce qu'en fait, tu fais jamais la même chose. Tu expérimentes, tu testes, il y a des trucs qui ça va marcher. Et puis là, en fait, ça t'a amené ailleurs, tu vois, genre tu as créé un truc, finalement, ça crée un plus gros truc. Ah, du coup, ça nous crée un modèle économique. Comment on le gère? Et puis, ça donne même à la boîte, en fait, plein de ressources. Et s'ils sont assez smart pour pouvoir intégrer ça dans leur organisation, ça peut donner des trucs très cool. En tout cas, dans la période où je pense que va falloir être créatif pour sortir du lot.
Ouais, là, va falloir y aller. Et de toute façon, je le vois, genre vraiment, là, je vois, tout le monde fait du contenu. Ouais. Donc maintenant, il n'y a pas de question à se poser, il faut en faire. Un truc aussi qui est important, c'est que ça ne sert à rien de faire du contenu en mode frileux. Si tu es là pour faire un post par semaine, une vidéo TikTok, ça ne sert à rien, autant arrêter et tu perds ton temps pour rien. C'est soit tu y vas pour de vrai, soit tu n'y vas pas. Genre, nous, on a commencé avec une vidéo sur TikTok, quand ça a marché, je ne me suis pas dit on continue, je me suis dit on en fait deux, tu vois. Et en fait, après, on avait la capacité d'en faire 3-4, c'est juste qu'on n'avait pas de monteur. Et on commençait à se demander, OK, on va payer un monteur qui va nous faire les vidéos, on va se focus sur les rushs, et on allait le faire. Mais du coup, on a fait le pivot qui fait qu'on n'était plus sur le recrutement, enfin, plus exclusivement sur le recrutement, bref. Mais dans ma tête, ça devenait un vrai levier, tu vois, que je commençais à exploiter, et j'étais qu'au début, je pense. Parce que si on avait continué comme ça, je sais pas, on aurait pu vendre notre SaaS, plus du service, plus des trucs, on aurait pu faire des choses de dingue, tu vois.
Incroyable.
De SaaS plus service marque employeur, tu payes des vidéos, enfin, Ouais, c'était ouf.
Bah, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tout le monde fait du contenu, mais tout le monde ne fait peut-être pas bien du contenu. Et donc, du coup, là, je vais. C'est une super transition. Du coup, ouais, parce que moi, tu vois, genre, je me suis retrouvée dans ce cas-là, tu vois. Genre, j'ai voulu faire du contenu et j'étais dans cette vibe de OK, je fais un post par semaine. Genre, juste fais ça. Bon, y avait, du coup, tu as des trucs inégaux, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Enfin, voilà, en fait, tu ne construis rien avec ça. Donc,
C'est ça.
finalement, tu t'épuises beaucoup. Tu n'apprends pas, comme tu disais, tu n'apprends pas de fou sur le copywriting. Enfin, bref, moi, j'avais un gros problème d'organisation et je sais que c'est grave toi qui m'as débloqué. Donc, c'est cool que je t'invite dans ce podcast parce que ça va permettre de débloquer plein de gens sur, en fait, bah, l'orga, évidemment, tout ce que tu as mis en place, mais du coup, en tools, en outils. Donc, j'ai utilisé la version bêta de Track. Ouais, c'est ce que j'utilise aujourd'hui pour tout ça, hein, pour le podcast, pour voilà. Est-ce que tu peux en parler plus et peut-être me donner un peu ta vision du truc? Est-ce que ça va
De
être, genre, voilà.
ouais, bah merci pour la tribune déjà.
Non, mais au-delà de
Non,
la
non,
tribune,
mais
j'ai testé, tu vois. Genre, c'est pour ça que. Enfin, tu vois, j'aurais pas fait sur si je ne l'ai pas testé, mais tu vois, c'est ce que j'utilise globalement.
yes. En fait, encore une fois, c'est qu'une question d'organisation. Et donc, moi, ma vision de Track, c'est un sales, il a un CRM pour s'organiser dans son pipe, ses ventes et autres. Un créateur de contenu, il doit avoir un espèce de CRM pour son contenu. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler sur le MVP, sur la bêta que tu as testé, en commençant avec LinkedIn. Ensuite, je me suis dit, putain, là, je fais des vidéos sur TikTok, il faudrait peut-être que j'applique ce process-là sur TikTok. Ah, mais on fait des articles de blog, est-ce qu'on pourrait pas mettre le même process aux articles de blog? Oui. Et en fait, step by step, tu vois, je me suis dit, OK, là, j'ai créé tout un système qui permet de gérer n'importe quel type de contenu, que ce soit newsletter, blog, podcast, vidéo, enfin bref, n'importe, où je centralise tout, où je suis dans un seul et même endroit et je peux vraiment me focus sur la création de contenu. Parce que ce qui est compliqué, c'est que, tu vois, dans la création de contenu, bah, tu vas sur LinkedIn, tu écris un post. Ce n'est pas la même forme que sur Twitter, donc tu dois switcher et aller sur Twitter, et puis en fait tu fais une vidéo derrière, et ça saoule. Il y a un milliard de trucs autour de la création de contenu qui font que tu perds du temps. Et donc moi, ça m'avait saoulé tout ça, parce que bah, je suis créateur de contenu aussi à la base, tu vois, depuis avant Lemlist, depuis que je passe chez Lemlist et après. Et du coup, j'ai commencé à construire ce MVP-là, où je centralisais toutes mes idées, tout mon contenu. Tout était optimisé pour que je perde pas de temps avec est-ce que ça va être comme ça, le clic, le machin, la forme et tout. L'analytics aussi. Moi, j'analysais beaucoup mes posts. Et comme tu le disais, ça, en fait, tu peux pas. L'analyse, elle sert à rien à partir du moment où tu fais pas beaucoup de publications. C'est comme du SEO. Là, on parle beaucoup de LinkedIn parce que pour les sales, c'est logique. Mais tu vois, quand tu fais du SEO, si tu fais un article de blog par tous les 4 matins, bah, ça sert à rien, tu vois, tu peux regarder tes perfs, mais qu'est-ce que tu vas analyser? Tu vas rien analyser. Donc, moi, je suis un peu d'avis de quand je commence un réseau, genre, j'y vais comme un sauvage, genre, je me saigne dessus. Là, je vais attaquer Twitter, je vais me saigner sur Twitter parce qu'il faut que je bombarde, je bombarde, je bombarde. J'ai assez de data pour commencer à analyser et à me dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment je vais faire et autres. Et du coup, tu vois, toute cette orga-là, c'est Track en fait. C'est un SaaS où tu vas centraliser tout ton contenu, que ce soit LinkedIn, Twitter, on va ajouter les autres plateformes après. Tu vas avoir tout ton analytics et tu vas pouvoir savoir ce qui marche pas, collaborer dans ta création de contenu. L'idée, c'est de faire collaborer justement bah, toutes les équipes. Et donc, du coup, tu peux créer des teams avec les équipes marketing, les équipes sales qui vont pouvoir donner des conseils sur ça, c'est pas bien, ça, c'est bien et tout. Tu peux même créer du contenu pour les autres. Donc, en fait, c'est ce que je faisais presque un peu, tu vois, chez RFT. J'écrivais des bouts de poste pour Corentin et la team. Là, je pouvais le faire dans Track, en fait. Tu pourrais avoir une boîte qui a une personne dans la boîte qui est dédiée à créer du contenu pour tout le monde. Et du coup, elle est là, elle pourrait créer du contenu pour les autres, leur donner des idées, des trames, les suivre, piloter l'activité et elle serait dédiée comme une personne est dédiée au SEO et c'est un levier d'acquisition. Le contenu, ça devient un levier et tu te dédies sur ça. Donc voilà ce qu'est Track, tu vois, c'était long à pitcher,
Moi, ce que
mais
j'ai
pour
aimé
te
dans
dire.
en tout cas, la version bêta, c'est ce que j'ai. En fait, moi, ce qui a. C'est qu'en tant que sales, tu vois, genre, évidemment, j'ai. Enfin, comme tous les sales, on dit tous la même chose, mais c'est un peu prétentieux. Genre. En gros, j'ai pas le temps, mais tout le monde n'a pas le temps. Mais tu vois, j'ai pas le temps entre les différents trucs, etc. Mais tu vois, genre, par exemple, là, je te donne un truc très concret. Genre, ce matin, voilà, je fais des relances de deal, etc. Et j'ai un carrousel à faire, tu vois. Genre, voilà, j'ai un carrousel à faire. Il doit partir aujourd'hui. Et tu vois, genre, en fait, ce que j'avais du mal avant, en ayant mes propres outils, en faisant mon Notion de mon côté, en essayant de faire des trucs, c'est que c'était le fait de réexploiter mon contenu. Tu vois, genre, ouais. En fait, parce qu'il y a un moment donné où tu crées plein de contenu, tu vois, genre, moi, je sais pas, j'en suis à je sais pas combien d'épisodes de podcast, j'ai une newsletter, donc je sais pas combien de newsletters qui sortent, mes posts sur Instagram, sur Twitter, etc. Alors, c'est pas mal toi qui m'as appris ça, c'est-à-dire que chacun de ces trucs peuvent se transformer en autre post ou être sur différents formats, c'est-à-dire que c'est de l'infini,
ouais.
En fait.
Et ouais, pour
au final, sur un outil qui n'est pas pensé pour ça, c'est impossible. Parce que moi, en fait, j'ai réussi en fait avec la version bêta de Track, c'est ça en fait. C'est-à-dire que de me dire, ok, je pars de mon podcast, et à partir de mon podcast, il peut se passer plein de trucs. Et yes. Même pas, je pars de mon newsletter, il peut se passer plein de trucs. Et si un jour je me chauffe, genre, parce que ça arrive parfois d'écrire un post LinkedIn comme ça en mode freestyle, bah du coup, pareil, tu vois, je peux aussi le relier en me disant, mais attends, mais ça, en
exactement.
Fait, je peux aller loin et faire un podcast. Du coup, c'est ça en fait que j'ai aimé. Et je pense que c'est ça qui manque, tu vois. Parce que tu disais, ouais, effectivement, je pense que tout le monde doit faire du contenu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du contenu, mais c'est beaucoup des free, tu vois, genre, voilà. Maintenant,
ouais,
il faut que maintenant ça rentre dans une organisation, boîte, start-up, qui ne soit pas le haut du panier, hein. Je parle des listes, etc., etc., tu vois. Tu vois, ça m'intéresse. Tu vois, quand tu vois des boîtes comme Doctolib, Alan, tu vois, ils ont des gens, effectivement, qui font des articles de blog, etc., mais tu vois, je ne pense pas qu'ils sont organisés comme une machine, tu vois.
Je ne sais pas, je vais... Si ils ne le sont pas, j'aimerais bien aller faire un tour là-bas.
En tout cas, je ne vois pas ça, tu vois, je ne vois pas leurs sales. Genre, je ne suis non, pas mais... une sales Alan qui m'explique que j'adore leur mutuelle, mais du coup, genre, pourquoi leur mutuelle est trop stylée.
Ouais,
je n'ai jamais vu,
tu vois. Genre, tu veux dire.
Donc, il y a plein de boîtes en fait, qui font partie des licornes, mais en réalité, je ne vois pas leurs sales. Tu vois, je n'ai jamais vu des mecs de PaySheet. Enfin, peut-être qu'ils ne sont pas dans mon feed, mais tu vois, genre, je ne crois pas avoir une de PaySheet, etc. Faire du contenu. Enfin, je pense que même Conto. Je pense que c'est Shubham qui a fait plus de com pour Conto parce ouais, que ouais. Parler d'autres choses, tu vois, que les mecs qui de Conto eux-mêmes, tu vois.
Non, mais t'as raison. Mais en fait, c'est juste, c'est pas dans la mentalité. Je sais pas si ça va. Regarde, mais tu le connais aussi. Là, aux US, Morgan, Jim Graham, quoi. Le gars, le top voice sales, truc de ouf, machin, sales love, je sais pas quoi, tout ça. Le gars, il a fait un post pour dire, ok, maintenant, on va faire du content, tu vois. Et il a fait une espèce d'agence, je sais pas quoi, qui travaille la brand, le content, enfin. C'est un peu, tu vois, tout ce délire-là. Il a compris que plus il faisait des posts sur LinkedIn, plus il était visible, plus il closait, plus c'était simple. Donc, je pense qu'à un moment, ça va arriver en France. Quand ça va arriver en France, genre là, soit ça va lay off toutes les équipes marketing, on va leur dire, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? Genre, vous faites un article de blog par semaine, vous êtes 10. Soit ils vont devoir se structurer. Mais tu vois, pour donner un langage chez RFT, on pondait 2 posts LinkedIn par jour, 2 threads Twitter, 2 vidéos TikTok, 2 posts Instagram, 2 YouTube Shorts. Un article de blog par semaine, et c'était juste Moudalifa qui faisait ça. Tu vois. En fait, pendant un mois, je me suis posé avec elle, je lui ai donné les bases du copywriting, je lui ai expliqué, j'ai fait tout avec elle, et ensuite, je lui ai dit, maintenant, les clés de la maison, elles sont à toi, tu te débrouilles, tu gères tout le truc, parce que moi, je dois aller faire autre chose, et je te back de derrière, et je regarde ce que tu fais, et on a le process de collaboration, je peux valider, pas valider le contenu et tout, et en fait, elle déroulait, tu vois. Et elle était toute seule, elle faisait plus que toutes les équipes marketing dans les scale-up en France, tu vois. Genre littéralement, tu vois, j'ai pas peur de le dire. On prend notre regard, on la met dans une team de 5 personnes, on fait un média. Tu vois. Genre, c'est... En fait, tu crées trop de contenu. Ils n'ont juste pas l'organisation. Et une fois que tu as l'organ, tu déroules. Et après, quand tu commences à créer vraiment du contenu, comme tu l'as dit, là, tu peux te chauffer à recycler et autres. Mais ouais, chez nous, un bon post LinkedIn, ça faisait une bonne vidéo TikTok. Une bonne vidéo TikTok, on en faisait un post LinkedIn. Un bon post LinkedIn, on a rajouté des paragraphes, ça faisait un article de blog. Et du coup, tu vois, tout se nourrissait comme ça. Et moi, j'ai fait des tests, c'était n'importe quoi, mais je suis allé très loin. J'ai pris des mèmes, tu vois, des photos de mèmes que j'ai retranscrits à l'écrit et j'en ai fait des posts et ça marchait. Tu vois. Et je suis sûr que si ces mèmes-là, je les avais retranscrits en vidéo, on l'a fait d'ailleurs sur TikTok, ça marche aussi. Donc en fait, genre, tu peux tout transformer en tout. Tu vois, genre vraiment, que ce soit un mème, une vidéo, ce que tu veux, tu peux le transformer.
Ok, trop cool. Et alors, dernière question, mais qui va concerner Track, c'est-à-dire que bah, tu vois que l'IA aujourd'hui. Va transformer clairement les ventes B2B. Ouais. Toi, aujourd'hui, justement, sur cette partie, peut-être que ça peut faciliter. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Parce que tu vois, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui te disent, ouais, il faut que tu apprennes à faire d'abord les règles de copywriting pour faire du contenu. Est-ce que, par exemple, un sales aujourd'hui ou une équipe, tu vois, genre, on va plus parler d'une équipe qui décide, allez, on a écouté Marwan, on veut se chauffer, on va essayer de commencer à construire du contenu. Est-ce que tu penses, genre, tu vois, avec les outils, que ce soit ChatGPT ou même, tu vois, genre, avec Notion aujourd'hui, franchement, ça a intégré, voilà. Tu penses, en fait, qu'ils peuvent utiliser ça au départ, juste pour faire du contenu, toi dans Track, tu vas, tu, comment tu penses, genre le
Ouais.
des hacks, parce que tu vois, genre, voilà, mais comment tu
Bah,
penses justement que ça doit bien.
je suis un peu attiré en ce moment. En fait, moi, je pense que l'IA, genre, c'est comme en sales, tu vois. T'as des IA, ils font des cold calls, t'as des IA, ils écrivent tes emails et tout. Ok, ça va peut-être marcher pendant 6 mois et après, tout le monde va en avoir marre et plus personne va vouloir relire ton email, répondre à ton appel ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense que tu auras de plus en plus de vidéos vraiment, tu vois, humaines qui vont fonctionner quand tu vas vouloir faire de la vente parce que au bout d'un moment, on en a ras-le-bol de l'IA. Et je pense que c'est un peu la même chose sur le contenu. Moi, je les vois, les posts qui sont écrits. Parce que j'ai fait des tests, tu vois. Je ne dis pas ça sans avoir fait des tests. J'ai poncé le truc, j'ai cherché. Et ils me pondent des posts qui sont assez quali. Déjà, le premier point, c'est qu'en fait, juste le fait de ChatGPT jusqu'à ce qu'il me donne un post qui est quali, en fait, j'ai perdu autant de temps que si j'avais écrit le truc moi-même, voire plus. Donc, bon, déjà, à ce niveau-là, tu vois, ça ne m'aide pas. Et ensuite, tu les reconnais un peu. Même s'ils sont devenus ultra bons et tout. Tu sens, enfin, je sais pas, il y a un truc, des fois, j'arrive à les reconnaître, tu vois. Et bon, je dis ça, quand il y aura ChatGPT-5, on les reconnaîtra peut-être plus et je me tromperai, mais dans tous les cas, pour moi, l'intelligence artificielle, enfin, pour moi, elle doit pas écrire le contenu pour toi, elle doit être là pour t'aider, peut-être à trouver des idées si t'en as pas, à te donner une structure, à faire deux, trois trucs et tout, tu vois, qui vont t'aider, ça doit être un assistant, mais elle doit pas t'écrire ton contenu. Je pense,
Très important.
et il y a peut-être des gens qui me donneront tort. Mais elle doit pas. Ça se trouve, je me donnerai tort moi-même d'ailleurs, parce que je suis en train de tester des choses à ce niveau-là pour être sûr que je dis pas n'importe quoi. Avec juste aussi Midjourney, plein de choses. Tu vois, je suis en train de vraiment automatiser plein de choses pour tester. Mais je suis assez convaincu que ça, tu vois, de ça. C'est
Après, en fait, là où tu as
un
raison, tu
assistant, tu vois.
vois, genre, tu as raison, tu vois, genre, je pense que tous les canaux en fait qui sont automatisés à un moment donné, ça s'épuise, il y a
Bah
la
ouais.
nouveauté, parce que tu es le premier dessus et donc du coup ça marche. Après, je pense que tu vois, genre, même, tu vois, genre, même moi, je me rendais compte, tu vois, je vois des trucs hyper chiadés sur LinkedIn, etc. etc. Je pense que tu vois, genre, ça dépend. Enfin, tu vois, ça dépend de. Il y a des gens, en fait, quand ils créent du contenu. Tu vois, par exemple, genre, tu prenais l'exemple de Morgane. Mais Morgane, en fait, genre, c'est limite, il allume sa caméra et il parle. Enfin, genre, il fait
Ouais,
une
c'est
fesse.
vrai.
Enfin, il n'y a rien de. Tu vois, genre. Alors que tu vois, il y a d'autres, pendant longtemps, tu vois, moi j'étais un peu complexée parce que j'étais toute seule à essayer de faire monter mon média, etc. Et je me rendais compte, je voyais des gens qui faisaient des trucs genre, c'est des trucs de feu d'artifice, des super vidéos, etc. etc. Et je me disais, ouais, en fait, il faut que je sois à ce niveau-là pour que. Enfin, et en fait, aujourd'hui, tu vois, genre, je me dis, bah non, en fait, tu vois, genre, en fait, tu fais. Et je pense que, tu vois, ce côté, genre, réel, bah ça va aussi également, tu vois, genre, pondérer en disant, ok, les mecs, ils se craquent à faire des trucs. Tu vois, quand tu vois, par exemple, des mecs aux États-Unis faire des mini-cours sur des carrousels, c'est même plus des carrousels, c'est des mini-cours, c'est genre extraordinaire.
Ouais, de ouf.
J'ai pas encore la
Ils
skill pour
font.
faire ça, mais genre, je trouve ça incroyable. Bah ça, en fait, tu vois, genre, tu sais que ça vient d'eux. Parce que, en fait, ça peut pas venir de ChatGPT, c'est des mecs, en fait, qui ont expérimenté, qui connaissent un sujet par cœur et qui arrivent à
Ouais.
sur 15 slides, quoi.
Non, mais tu vois, moi, je suis un. Imagine, là, aujourd'hui, tous les créateurs, ils utilisent ChatGPT, ils font tous deux posts LinkedIn par jour. C'est fini. LinkedIn est mort, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire spammer dans ton feed, ça va devenir le bordel. Va falloir sortir de la masse, ça va être ultra chaud et tout. Et bah, je sais pas, je prends le même prompt, je lui donne trois fois, il va me sortir des choses différentes, mais c'est toujours un peu dans la même lignée. Donc, imagine tout le monde fait la même lignée. Déjà, c'est ce qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc non, moi, je pense que la touche humaine, elle est importante. Ton propre style, ChatGPT pourra, si, enfin, en vrai, ça grandit, ça va tellement vite qu'il pourra
Va
sûrement
trop
le
vite.
faire. Mais tu vois, en fait, d'avoir la main dessus et tout, c'est toujours important. Moi, j'ai découvert des trucs de fou sur LinkedIn parce que j'avais la main dedans tout le temps. Tu vois. Quand les sondages, ils ont commencé à exploser, bah, j'ai fait des sondages. Ensuite, j'ai vu que les gens en avaient marre des sondages, mais ça continuait à exploser. Il y avait les lignes magnets. J'ai commencé à fusionner des lignes magnets avec des sondages en mode si tu veux recevoir l'email, tu mets oui ou non. Et là, je faisais des paires de malades. Et en fait, tu vois, c'est parce que j'avais les mains dedans, que je testais les trucs, que je les voyais venir, que je pouvais itérer et tester des nouvelles choses. Tu vois. Et ouais, je suis. Pour moi, c'est un assistant, l'IA. Et voilà, là, même, je pense, tu vois, enfin, imagine, enfin, je suis curieux d'avoir ton avis, mais t'enverrais jamais une séquence d'email qui est écrite par IA, tu vois.
Non, en fait, j'ai essayé avec Notion et j'ai essayé avec ChatGPT. Et bon, tu dois travailler de fou dessus. En fait,
C'est
c'est-à-dire
ça.
en fait, ça crée une structure. Tu vois, genre, je ne dis pas que ça ne crée pas la structure. Tu vois, tout ce qu'on dit, ou ce que je peux dire par le newsletter, voilà, un bon cold mail, il se construit comme ça, etc. Bah, du coup, ça te le construit comme ça. Sauf qu'en vrai, pour l'instant, il n'est pas capable. Je dis pour l'instant, parce qu'il y a quand même des outils de ouf qui arrivent du côté des US. On en parlera peut-être un autre jour, mais voilà. Mais pour l'instant, tu vois, il n'est pas capable de rentrer dans la compréhension à la fois de ton business et dans la compréhension des pains des mecs. Tu vois, la manière dont, en fait, tu vois, genre, on disait ça avec Maxime dans une interview, c'est-à-dire que pour closer quelqu'un, il faut au moins que tu aies identifié au moins trois pains, en fait, de ton prospect. Genre, un pain, c'est pas suffisant, mais genre trois pains. Donc, il faudrait que tu aies une IA qui arrive à comprendre trois pains de chaque typologie de persona que t'es.
C'est ça.
Bon,
En
du
fait,
coup,
c'est
c'est-à-dire que
ça.
c'est pour ça que ton mail, tu es obligé de retravailler dessus parce qu'il n'y a que toi qui a chopé l'info et qui a une connaissance, l'expérience de dire voilà, en fait, les pains de mes gars, j'en ai peut-être 25 et c'est 25 dans les 25, j'ai tel type de persona, etc. Et donc, mon mail, je vais le construire là-dessus. Donc, j'ai plus perdu mon temps, mais j'ai quand même testé. Je pense que c'était important de tester,
Ouais,
mais
il faut.
que j'ai utilisé, quoi.
Mais ouais, t'as raison. En fait, c'est ça. En fait, il lui manque des variables. La variable LCP, la variable LCP, la variable juste expérience. Parce qu'en
Voilà.
fait, genre un sales, je sais pas, dans un grand groupe, c'est pas un sales dans une startup. Et du coup, si tu commences à donner des conseils de sales, tu donnes pas les mêmes choses parce que bah, t'as pas la même expérience, t'as pas vu les mêmes choses. Et l'IA, elle le sait pas, ça, tu vois. Enfin, même si tu lui dis, je suis sales dans un grand groupe et tout, elle a pas ton expérience, elle a pas fait le call avec Pierre où c'était hardcore parce que le gars, il répondait pas, machin, se fait ghoster 12 fois. Enfin, tout ça, elle l'a pas, tu vois. Elle a des variables qu'elle a pas. Et je pense pour le contenu, c'est peut-être un peu moins vrai parce que le contenu, il y en a beaucoup, donc elle peut se nourrir à mort. Mais quand même, je pense qu'il lui manquera quand même quelques variables
Ouais, il
et
faut du
faut
temps.
pousser. Ouais, moi, je suis assez convaincu que si les gens veulent faire du contenu avec l'IA, let's go, allez-y, parce que du coup, moi, je le ferai pas et je pense que c'est le meilleur moyen de se différencier.
Ok. Du coup, je te demande une dernière question avant de finir. On a beaucoup parlé, mais c'était sûr qu'avec toi, ça allait durer. Dernière question pour moi sur la partie content, etc. On a parlé de différents formats, t'inquiète. Des différents formats, des différents, etc. Est-ce que pour toi, genre, un sales dans l'avenir globalement, genre, il devrait avoir en fait des KPI uniquement sur la partie content? Genre, en fait, justement, tu disais, bah, moi, je produisais tant de trucs, tant de trucs, tant de trucs. Je pose la question, là, c'est plus pour les sales, pour qu'ils puissent se challenger, parce qu'il y a des moments, quand tu fais ton call, tu as besoin de savoir, en fait, bah, ok, j'ai targeté 50 personnes pour voir si ça marche, en fait. Toi, aujourd'hui, quel KPI il devrait se donner pour commencer?
Le KPI qui devrait se donner, franchement, c'est chaud, mais encore une fois, moi je focus toujours sur l'input plutôt que sur l'output. Et du coup, le KPI que j'aime bien suivre, c'est combien de fois j'ai posté, tu vois. Combien de
D'accord.
contenu j'ai créé, est-ce que j'en ai créé beaucoup ou pas. Et après, j'essaie de me concentrer sur d'autres contents. Mais en gros, la question, je me dis que, je sais pas, ça dépend des boîtes, encore une fois, mais le métier de sales, il va encore vachement évoluer à cause du content. Parce que du coup, tu auras peut-être moins besoin de faire du cold call, surtout dans les startups, le software et autres. Tu vois. En fait, enfin, moi, la vision que j'ai, c'est ce vers quoi j'essaie de tendre. Et je trouve en plus c'est encore plus simple pour des boîtes parce que tu n'as pas des modèles basés sur des sales, donc tu n'as pas besoin d'avoir des armées sales. C'est tu crées du contenu, des gens viennent voir ta boîte, expérimenter, ils veulent des infos, et c'est à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui vient leur parler. Et du coup, c'est plus vraiment un sales, tu vois, parce que quelqu'un est. Enfin, c'est de l'inbound. C'est
D'accord avec.
un peu compliqué. Et du coup, toujours bah, partant de ce principe-là, je focuserai sur l'input. Combien de posts on a créé, combien de contenu on a généré. Et ensuite, peut-être que tu pourrais regarder le nombre de leads et voir un peu, tu vois, des corrélations en inbound, pour le coup. Et je ferai comme ça, tu vois, je pense.
Ok, bah, écoute, ça marche. Super conseil. Donc, d'essayer de calculer en fait le nombre de posts qu'on fait par jour ou par semaine. À voir en
Ouais,
fait.
c'est l'input, genre vraiment l'input c'est le plus important. Quand on faisait des vidéos sur TikTok, je me concentrais juste sur faut qu'on sorte des vidéos. On faisait des vidéos à 1 million et tout. Des fois, je le savais une semaine après, hein. J'avais même pas regardé le compte. En fait, j'allais jamais sur le compte TikTok. Juste moi, j'allais dans l'endroit, dans notre espace de création de contenu et je déroulais du contenu. Et je m'en
Bien.
foutais du TikTok. C'était au début, tu vois. Parce qu'après, derrière, il faut répondre aux commentaires et tout. Mais je m'en foutais. Genre, et des fois, je voyais des vidéos qui pétaient et tout. Je le voyais 3 jours après, je suis en mode pas.
C'est
Et
cool.
mais il faut juste pousser sur l'input. C'est le truc le plus
Ok.
important pour moi.
Trop cool. Eh ben écoute, Marwan, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver du coup?
On peut me trouver sur LinkedIn et
Yes.
bientôt on me trouvera sur Twitter. Et j'essaie de préparer une petite newsletter moi aussi, mais je ne veux pas trop en parler parce que je ne sais pas si je vais réussir à la pousser encore.
Ok, bah écoute, trop cool. Merci énormément pour la valeur que tu nous as apportée là aujourd'hui.
Bah,
Et
écoute,
puis à
merci à
bientôt.
toi.
Et puis je mettrai le lien évidemment de track pour que les gens puissent tester en tout cas.
Trop cool, c'est
Voilà.
gentil. Merci
Allez,
Laetitia.
ciao
Ciao.
ciao, à plus. Voilà, c'est déjà la fin. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Merci encore, Marwan, pour cet échange et tes super conseils. Vous pouvez les suivre sur LinkedIn. Je vous mets toutes les informations dans la description du podcast. Si ça t'a plu, eh ben c'est maintenant qu'il faut m'aider. Et je vais te dire comment. Abonne-toi à Vendu sur ton appli de podcast. Si tu es sur Apple Podcast ou Spotify, tu peux laisser un avis 5 étoiles de préférence pour m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Et si tu veux aller plus loin, accéder à des ressources et ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à l'Newsletter Vendu. Je te mets le lien toujours en description. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.